Bon, à de 16 à 19 euros accompagne. Sur Vive FM, dans les bouchons, sous la pluie, elle t'accompagne. Une voix qui claque, une bande qui rigole. Sur les ondes, c'est le rock'n'roll. Déborah et toute sa clique. En fin de journée, c'est du soleil dans le trafic. Rire son vibes et vérité. Ils vous font rayonner sans jamais freiner.
16h-19h avec Déborah. Vive l'après-midi.
Vive l'après-midi sur Vive FM avec Déborah
et toute sa bande.
On est de retour avec toute l'équipe de Vive l'après-midi.
Mais ouais.
Alors, pour cette fin de journée, on a un invité dans les studios de Vive FM. Alors là, c'est un invité, mais même un docteur. Donc, docteur Bernard Marc. Bonjour.
Bonjour. Très heureux de vous rejoindre.
Alors, enchantée de nous avoir, d'avoir accepté l'invitation, parce que faut savoir que quand je suis tombée sur votre publication de votre livre, j'ai dit « Ah, il faut trop qu'ils viennent au studio de Vive FM ». Et je suis enchantée de vous avoir devant nous.
Très heureux de pouvoir discuter avec vous, d'exposer un petit peu ce que je fais et des tas de choses intéressantes sur un métier qu'à l'heure actuelle, qui est sous les feux des projecteurs.
Oui. Alors justement, vous êtes docteur, mais docteur en quoi ?
Ah, je suis docteur en médecine légale, je suis le médecin légiste tel qu'on le voit et je dirige ici l'unité médico-judiciaire de Compiègne. Alors, depuis un certain nombre d'années, depuis une vingtaine d'années, on vient de fêter l'anniversaire et j'ai eu d'autres expériences et d'autres endroits puisque en même temps je dirige à l'heure actuelle la maison des femmes à Saint-Denis, la maison des femmes qui a été la première maison des femmes implantée en France et maintenant 32 d'entre elles sont partout. Qui s'occupe des femmes victimes de violences, qui est un problème tout à fait d'actualité.
Ah oui, exactement. Très d'actualité même. Est-ce qu'on peut parler de votre métier un petit peu combien d'années comment ça s'est passé ?
Ah bah c'est un long parcours, parce que c'est une spécialité médicale, donc il faut jouer à l'interne de spécialité. Enfin, les études de médecine sont longues, les études de spécialité aussi. Et puis j'ai eu de la chance de tomber dans une équipe qui ouvrait la première unité médico-judiciaire il y a des années sur Paris. Et puis j'ai suivi un peu ce mouvement-là. J'ai eu la chance d'avoir des grands maîtres en autopsie, puisque le médecin légiste, on le voit aussi sur notre table d'autopsie. Et puis d'ouvrir après des endroits où la médecine légale est utile, puisque j'ai ouvert l'unité médico-judiciaire en Seine-Saint-Denis, qui est un endroit un peu sportif pour cette spécialité. Le 93 reste toujours un petit peu en avant.
c'est vivant.
C'est une école de formation assez tonique, je dois avouer. J'ai vécu quelques expériences intéressantes avant d'aller chercher peut-être la paix un peu dans le Compiénois. Et puis de revenir quand même, quand on a de revenir un peu dans le parcours.
On revient aux sources.
Là, je suis revenu à Saint-Denis, vous voyez, donc j'ai fait un bondi au départ, Saint-Denis. donc j'ai pas le 9-3 tatoué dans le dos, mais ça pourrait devenir. ça ne serait pas démérité.
Alors justement, moi j'avais envie de vous poser une question. Quand vous vous présentez à des personnes, on va dire, inconnues, qui ne connaissent pas forcément votre métier, quand on dit forcément médecin légiste, dans notre tête, on a des références, on a les films dans la tête, on a... Est-ce que souvent on vous pose des questions par rapport à ça ? Ah, vous faites comme tel acteur ?
Ah ben, le médecin légiste, ça, c'est le monsieur qu'on imagine toujours dans une chambre froide, donc on en sort, heureusement, la preuve, je suis avec vous, donc il y a une ambiance.
C'est chaud, hein. Et
c'est chaud. C'est pour ça que je suis venu, j'étais un peu trop frais par chez moi. Mais le médecin légiste, il s'occupe dans 95% des cas de victimes vivantes, tous les accidents, tous les traumatismes, toutes les violences de toute nature. C'est pour ça que mon bouquin « Médecin légiste pour les morts et les vivants », les gens s'étonnent un peu de pour les morts et les vivants, parce que ces vivants, ils sont quand même quelque chose de très important et qui sont un problème permanent dans ces violences, qui sont un petit peu notre quotidien, malheureux. Et on a un petit peu un reflet de la société qui n'est pas le bon côté, la bonne lorgnette, mais on est des observateurs un petit peu précis de ce qui se passe.
Et bien justement, on va rebondir sur cette belle transition. On va parler de votre livre, donc médecin légiste pour les morts et les vivants. Et on va dire en gros, tout en bas du livre, il y a la violence disséquée. Alors là, tous ces mots-là m'ont interpellée. Et franchement, on a hâte de découvrir de vous
Eh ben, je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'on
fait. Alors, pas la fin, hein, faut pas spoiler. Hein.
Non. Alors, le livre il expose, il raconte une quinzaine d'histoires, une petite vingtaine d'histoires qui sont parfois tout à fait terrifiques, mais qui expliquent bien notre société et les progrès et la médecine légale aujourd'hui, telle qu'on la voit aussi dans les séries. Hein. Elle a fait des progrès, elle a fait des bons, avec les empreintes génétiques, elle a fait des bons avec aujourd'hui l'imagerie. Aujourd'hui, par exemple, mais c'est le cas dans des circonstances tout à fait dramatiques, vous avez entendu parler de Crans Montana, il n'y a eu aucune autopsie de réalisée à Crans Montana. Tout a été fait par la virtopsie, l'imagerie virtuelle qu'on a mise en place il y a 20 ans, c'est-à-dire que les corps, on les saisit dans un scanner, on les numérise, on en fait de la numérisation 3D et on peut travailler sur cette numérisation 3D avec les scanners qu'on a, c'est-à-dire pouvoir répondre, pouvoir ne pas toucher au corps, parce que quelquefois ça a son importance, pouvoir être très rapide dans les réponses, et puis avoir des corps qu'on va garder. Alors pourquoi on garde des corps? Parce que vous avez entendu aussi parler du pôle Colcaise, sous les histoires anciennes, on enterre quelqu'un, on a fait notre examen, on a saisi le corps là virtuellement, et puis on dit ça doit être une mort accidentelle, on enterre. Et puis on apprend que finalement accidentelle, c'est pas tout à fait sûr, hein, peut-être quelque chose. Alors pendant des années, on devait exhumer le corps. Oui. Le corps qui est dans un état d'un corps qu'on exhume, ce qui n'est pas extraordinaire, mais voilà. Et puis si jamais le corps avait été autopsié, c'est encore moins extraordinaire parce qu'on l'a reconstitué un petit peu en puzzle. Enfin, c'est pas formidable. Là, on ressort des années après un corps complet. C'est-à-dire que
c'est comme un peu momifié.
Ah oui.
Notre corps qui est saisi, alors le corps tel qu'il est dans un qu'il était, peut modifier, se transformer, bouger, se dégrader, etc. Le nôtre, comme il est numérique, enfin numérisé, il est parfaitement intact. Et donc 10 ans, 20 ans après, on va pouvoir le transporter. C'est-à-dire envoyer des images, le transporter le corps, virtuel, d'accord, le replacer sur une scène de crime, c'est-à-dire imaginer un angle de tir, tout faire.
Et pourquoi pas l'imprimer avec les imprimantes 3D?
Et pourquoi pas l'imprimer avec les imprimantes 3D? Alors là, vous faites faire un bond, parce que au Festival du Polar, que j'organise aussi, parce qu'on fait un peu de tout, il va y avoir un magnifique corps qui n'est pas en 3D, mais qui est en résine et merveilleusement reproduit, qui va être au milieu d'une scène de crime qui ressemble à s'y méprendre à un vrai corps sur lequel par contre on a fait toutes les abominations, on lui a mis des coups de couteau, on lui a tiré des coups de projectile, on l'a brûlé en partie, enfin bref, on a été assez audacieux et il sera malheureusement aux yeux de tous dans cet endroit qui est normalement tout à fait calme, qui est le cloître Saint-Corneille en plein centre de Compiègne les 9 et 10 mai, donc a priori un endroit où on attend plutôt des lecteurs. Là on va avoir cette scène là, vous en avez la primeur et on va l'installer et tout le monde va pouvoir se retrouver en situation avec ce corps qui ressemble tellement à un vrai qu'à 36 centimètres près, je vous assure qu'il fait l'effet.
Vous donnez vraiment envie de venir aller le voir.
On va venir.
Avec plaisir.
Alors pour rebondir sur le livre, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez fait des conférences, vous avez publié où votre livre?
Alors, le livre est paru chez Mareuil. Mareuil, c'est un éditeur qui publie beaucoup de pros qui se mettent à l'écriture. Donc, c'est dirigé, c'est la collection de Jacques Dallest. Jacques Dallest, vous savez que c'est un des piliers avec moi, d'ailleurs, d'Appel à témoins sur M6. Prochaine émission le 20, mais ce sera aussi en replay, donc on a des histoires intéressantes à ressortir. Et donc dans ces grands professionnels qui se mettent à la plume, eh bien Jacques Dallest, ancien procureur général, celui qui a fondé le pôle Colcaise, vous voyez, on en parle, mais aussi des gens comme Georges Salinas, qui était le chef de la BRI au moment du Bataclan, bref, des gens qui ont une certaine expérience, sinon une expérience certaine, puis des magistrats, des grands magistrats, etc. Et donc, Mareuil a sorti ce livre et moi j'ai voulu retranscrire des histoires d'ailleurs, un certain nombre sont de l'Oise, hein, parfois glaçantes, hein, parfois assez terribles, mais qui nous disent beaucoup sur notre société et aussi les enquêtes, la façon de faire, des tas de choses extraordinaires. Je commence le livre avec la fameuse histoire Angélique. Angélique,
oui, elle est connue.
Ça a été l'histoire terrible de Compiègne. Mais c'est l'histoire autour de laquelle se développe les empreintes génétiques. Parce que au moment où Angélique est violée et tuée, c'est une histoire absolument sordide des années 90, on va prélever l'ADN, mais on ne sait pas à quoi le comparer. On a l'ADN, on a l'ADN du tueur. Du violeur et du tueur. En espèce du violeur, à coup sûr, vu le type d'ADN qui a été prélevé. Et on a ça et on ne sait pas à quoi ça correspond. Et la famille va se battre avec Maître Bélier, qui sera d'ailleurs un des auteurs présents le jour de Noir Impérial, puisque c'est le nom de ce festival du polar. Et donc, elle va se battre et la famille se bat pour qu'il y ait un fichier national des empreintes génétiques. Ça se dispute, il y a des tas de discussion, et puis ça devient quelque chose qui fonctionne, et maintenant on enregistre, on entre de plus en plus de données, d'empreintes génétiques pour arriver à des solutions, et parfois on a l'arme du tueur, un ADN, on ne l'a pas parlé, puis il n'a pas parlé, et puis des années plus tard, hop, on va retrouver l'ADN, ça va matcher. Comme ça match, on a le nom. Ben pour Angélique, c'est un peu la même histoire, parce que des années plus tard, moi je vois une dame qui est victime de violences conjugales terribles. Alors c'est des choses qui se reproduisent, parce que je viens dans votre studio, mais je viens de quitter, j'ai eu du retard à venir vous voir, parce que quitter une situation d'une femme qui s'est fait agresser assez sauvagement dans la rue et qui a failli être enlevée. Et cette histoire, elle m'a beaucoup fait froid dans le dos, parce que la deuxième histoire d'Angélique, elle s'appelle tout à fait autrement. Et c'est une dame qui est agressée par son ex, qui l'enlève, mais lui, il arrive à l'enlever. Coup de chance pour celle que j'ai vue aujourd'hui. Ça n'a pas pu être le cas, mais elle est emmenée. Elle va dans une forêt. Dans une forêt, il la sort de la voiture. Il va la tuer sauvagement et il va mettre le feu au corps. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Et puis lui va essayer de se tuer et il va finir par se tuer. Une histoire terrible qu'on croit terminée, etc. Ce qui est fait, c'est des empreintes génétiques sur lui, comme ça, qui avaient été faites avant, parce que comme il avait déjà été violent avec la dame, et qu'on avait déjà parlé, vous voyez, on est en train de parler de beaucoup de choses d'actualité, des violences faites aux femmes, des féminicides, enfin, je sors pas les mots, je raconte juste une histoire. Mais en la racontant, vous voyez que ça évoque un petit peu les choses pour les uns et les autres. Et donc, son ADN avait été traité, mais j'allais dire banalement, donc il suit, quand on prélève l'ADN, bah, il suit la piste normale quand on demande pas une étude en accéléré, il va à Écully, c'est Lyon, où il y a un truc centralisé de la police, où on va étudier tous les ADN qui sont prélevés, ça passe comme ça dans la machine, et tout,
ça
match.
Trop bien.
Et ça match avec quoi ? Avec l'ADN d'Angélique. C'est lui. Alerte générale.
J'ai les poils qui se dressent.
On décroche le téléphone, vite. C'est un auteur de meurtre qui a recherché, de meurtre et viol qui a recherché. On a le nom.
Ah oui, là.
Et là, ça tombe comme ça parce qu'on a le nom, mais il est mort. Et on ne pourra jamais le juger.
Ouais, ça, c'est terrible, ça.
Et le juge d'instruction va être obligé de dire aux parents... Pas j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, bien évidemment. C'est tellement terrible, ça fait des années qu'ils se battent pour ça. Ouais. Et de leur dire,
pour faire le deuil, surtout.
C'est terrible. On va pouvoir vous dire, vous apporter la réponse. On connaît le nom, l'auteur de ce crime atroce d'Angélique.
Mais
on ne va pas pouvoir le juger. Il s'est donné la mort. Et il se donne la mort en tuant une autre femme. C'est pour ça qu'il y a une dédicace. La dédicace, au début, elle est pour Angélique, elle est pour cette femme. Parce qu'il y a des exemples comme ça dans ces histoires. Et pire que tout, il a une deuxième signature. Vous savez, les tueurs en série, ils ont des signatures. Lui, sa signature, c'est l'arme. Il a utilisé la même arme. En tout cas, il a utilisé et qui fait des lésions très particulières. Et je vais avoir à conclure l'histoire, puisqu'on va me demander... d'expertiser sur les photos qui ont été prises et sur le dossier d'autopsie d'Angélique et sur ce que j'ai constaté sur le corps de sa deuxième victime. s'il n'y en a pas eu entre-temps. En tout cas, les deux que je vois. Et c'est la même arme qui a été utilisée. Donc cet homme avait aussi gardé une signature criminelle, un objet qui l'accusait, mais qu'il avait gardé, et qui est signe de la violence. Donc vous voyez que dans cette société, un jour, un beau matin, on se retrouve avec des choses qui sont assez terribles et qui nous disent beaucoup. Et quand on entend parler de tous les deux jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon, là, il y a des illustrations et parfois, elles sont assez proches. Et j'ai voulu juste les retranscrire.
Et donc du coup, dans ce livre, il y a 15 histoires, faits réels, et de l'Oise et d'autres régions. Des histoires comme Angélique. Donc on vous invite à le lire justement. Où on peut retrouver votre livre ?
Il est vraiment, j'allais dire, partout dans les bonnes librairies. Alors heureusement, Maroy diffuse bien.
Oui.
Et donc il est partout. Et j'ai eu le plaisir de signer, par exemple, de le signer à la FNAC à Compiègne, mais de signer aussi à Saint-Quentin chez Cultura. Vous voyez que j'ai pas de limite, ni d'endroit, et j'essaie de le défendre dans pas mal de salons du livre et du polar.
Et justement, en parlant de polar, donc on va revenir quelques minutes sur le premier festival polar. Donc tout à l'heure, vous avez dit que c'était le Noir Impérial.
Ah, ça s'imposait.
Voilà.
Ah
oui.
Compiègne Impérial.
Voilà.
Le festival du polar, c'est du noir, Noir Impérial. On a fait un magnifique logo avec le N napoléonien, on s'est tout permis. Et en noir et blanc, magnifique, une splendeur. Et là, on réunit des gens avec qui j'ai travaillé en partie, avec qui j'ai arpenté des salons du livre. Vous savez, dans les salons du livre, on parle, on discute, on rencontre un auteur. Il y a des endroits assez extraordinaire, on peut discuter avec la table d'à côté, l'auteur entre deux signatures, et on a assemblé là, avec Aurélie Papin qui est la secrétaire générale, on a assemblé plus d'une trentaine d'auteurs et des pointures. Alors des gens pas connus quand même, on pense qu'on va avoir probablement aussi Denis Bonnec de RTL, on a à coup sûr François Vignol qui est le directeur de M6 pour l'information juridique. On a comme parrain Jean-Marc Bloch. Jean-Marc Bloch, c'est celui qui présentait Non Élucidé, la fameuse émission qui a été sur France 2 et puis qui est maintenant rediffusée, je crois que c'est sur la 19 sans me tromper, qui a fait énormément d'émissions. vous suivez. Vous avez les rediffusions.
Oui.
Vous devez me voir en beaucoup plus jeune dans certaines. Parce que l'émission a duré un certain nombre d'années, sinon un nombre certain. Nous avons le juge Thiel, Gilbert Thiel, le fameux Gilbert Thiel, le juge d'instruction qui était un des premiers juges du parquet antiterroriste. Et qui était un grand juge de Nancy, qui a fait des histoires assez fameuses. Et Éric Dupuis, qui est un auteur de Polar du Nord, qui a écrit pas mal de Polar, un ancien flic qui s'est mis à l'écriture. Et puis tout autour, des gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle. Il y aura Maître Clarisse Serre, qui est la lionne du barreau dans le 93. Il y aura Béatrice Zavaro. Béatrice Zavaro, elle a défendu un monsieur tout à fait indéfendable qui s'appelle Dominique Pellicot. J'ai pas dit. Gisèle, j'ai dit Dominique, c'est-à-dire monsieur, et elle vient présenter un livre qui est « Défendre l'indéfendable », parce qu'il faut aussi que les avocats défendent les horreurs.
C'est ça. On ne peut pas défendre toujours le... On ne sait pas, en fait, qui va être vraiment...
J'ai vu un avocat qui disait « Tout le monde est défendable ».
Oui. Pour eux, oui. Voilà.
Il y a des choses très difficiles. Il y avait des grands champions de la défense de l'indéfendable. Il y a eu un Jacques Vergès qui a défendu quand même des Klaus Barbie. Des personnages tout à fait odieux. Mais il va y avoir du monde. Il va y avoir l'ancien directeur de l'identité judiciaire au 36 Quai des Orfèvres, Charles Marlet, pour vous donner un peu l'éventail. Il va y avoir trois prix du Quai des Orfèvres pour les amateurs de polar. Et puis, il va y avoir de la BD. Puisque on a une superbe affiche qui est signée par Pascal Bresson, qui est un très grand dessinateur.
Elle est magnifique.
Ah, c'est de la ligne claire. Hein. C'est quelqu'un qui est dans ce chapitre. Il va y avoir Manchette et Niemek qui vont être là. Il va y avoir Romain Slocombe qui a des personnages qui font des romans assez extraordinaires. Romain Slocombe, il a un personnage de flic tordu des années 30, absolument odieux. Bref, tout le monde va être là, ça va être un bon moment sympathique.
Alors, au cas où, pour info, par ici, il y a une association qui s'appelle Métabule, je ne sais pas si vous connaissez,
oui,
qui est à Tracilval et qui organise également un festival de la BD. Donc, on a assisté avec de très beaux auteurs aussi, connus ou pas. Et bah, c'est toujours intéressant de venir sur des festivals. Donc, on vous invite à aller au premier polar organisé à Compiègne. Donc, où exactement ?
Alors, c'est Cloître Saint-Corneille, c'est-à-dire en plein centre de Compiègne. Le 9 et le 10 mai, on va complètement occuper ce Cloître Saint-Corneille, mais pas que, parce que dans les restaurants, tous les restaurants autour, le midi, on pourra déjeuner avec les auteurs. C'est une idée qu'on a eue en disant, bah, d'habitude, on vient, on fait signer son livre deux minutes, on discute un petit peu. C'est un peu court. Bah là, le temps de pause, bah, on l'a organisé avec tous les restaurateurs du secteur qui veulent bien accueillir nos auteurs et puis 4-5 lecteurs autour de lui pour pouvoir discuter une petite heure dans une ambiance sympa. C'est quand même vraiment bien de pouvoir parler.
Oui, oui, c'est trop bien. En gros, c'est pas un speed dating, mais c'est un speed auteur.
Oui, et sans trop de speed, parce que c'est des auteurs, s'ils ont 5 minutes de retard, on ne va pas leur tirer les oreilles. Et puis beaucoup de choses, il y a des causeries, il y aura YouTube qui va être présent, puisqu'on a Audrine Zachy qui fait des petites scénettes et des choses extrêmement sympas, ça s'appelle Cause Mon Hôte, qui est sur YouTube.
Oui, j'ai vu.
Et puis on va avoir aussi deux projections, il y a une salle de spectacle qui s'ouvre, et deux projections de documentaires, un qui est sur l'actualité de l'unité médico-judiciaire, ça s'appelle Légiste aux côtés des vivants, c'était passé sur France 2, mais on va le repasser là devant le public, en grand écran. Et puis un autre qui est sur un personnage extraordinaire, qui s'appelle La dernière autopsie du docteur Paul. Le docteur Paul, c'est un légiste qui s'était mis un petit peu au repos à côté de Compiègne, à Vieux-Moulin, pour faire un élevage de coquers, qui était sa grande passion, mais qui était quand même l'ami de Georges Simenon, c'est celui qui donne les sujets des Maigret, c'est celui qui est sous son nom dans les Maigret, et c'est le fondateur, le cofondateur du prix du Quai des Orfèvres, et qui a laissé, dont j'ai eu la chance d'avoir toutes les archives et retracé sa vie dans des ouvrages précédents, toujours en librairie.
Alors, du coup, on note le premier polar, donc ça sera le 9 et 10 mai.
Absolument, voilà. Un samedi et un dimanche.
Alors, moi, la question qui m'intéresse, est-ce que vous invitez la presse ?
mais la presse est largement invitée.
Bah oui.
Tous les lectrices, tous les lecteurs sont invités, c'est évidemment gratuit. Et on va essayer de multiplier les échanges et de faire que ce soit des échanges décontractés, sympathiques, intéressants. Il y a des conférences aussi, plus classiquement, il y a des tas de choses. On va essayer de l'animer très fort.
Alors moi, je le note tout de suite dans notre agenda pour Vive l'après-midi. On sera avec vous, ça c'est sûr.
C'est formidable.
Ah, oui. Pour moi, ça sera un beau cadeau parce que moi, je suis du 10.
Bah voilà. Voilà, parfait.
Formidable.
On fera un petit cadeau à Damien en passage.
Ah bah, y a aucun...
Ça sera le corps en plein milieu de la
scène. J'espère de le rappeler. Ah bah, si le corps il a des coups de couteau, ça peut me concerner en ce moment.
Dans le dos surtout.
Dans le dos, on précise.
Alors, bah merci, Marc Bernard. Marc Bernard, c'est quoi le prénom ?
Ah, le prénom c'est Bernard, je tiens.
D'accord. Eh ben, merci Bernard, merci d'être venu dans les studios de Vive FM. On a hâte de vous découvrir justement au festival qui va, je pense, attirer beaucoup, beaucoup de monde sur Compiègne parce qu'on a beaucoup de lecteurs. Et à très bientôt en tout cas. Et encore merci.
Merci beaucoup et avec grand plaisir. Et à bientôt évidemment.